Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin.
Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de la vie devant soi qui démarre. On a une heure devant nous pour parler santé, bien-être, développement personnel et tout particulièrement aujourd'hui, on va s'intéresser à un Tour de France, à nous pas comme les autres, celui de Philippe Ménard, victime d'un AVC en 2014 et qui depuis a placé sa vie sous le signe de l'information et de la prévention. Bonjour Philippe Ménard.
Bonjour.
Et puis merci de faire étape dans notre studio car vous reprenez la route dès demain.
Oui.
Alors on va parler d'AVC, des risques d'AVC, on va parler de prévention également avec notre médecin Gérald Kierzek que vous retrouverez aussi pour le répondeur santé, vos questions 39-21 et comme chaque après-midi, les réponses du docteur Kierzek. Bonjour Gérald.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous, je les ai les réponses. J'ai
c'est
les questions, j'ai les réponses, ouais promis.
Qu'est-ce qu'il est bon élève en début de semaine, c'est un bonheur. En fin d'émission, ce sera l'heure de retrouver Anne Cazaumont, la chronique, le développement personnel. Bonjour Anne, alors aujourd'hui on parle de quoi?
Namasté, aujourd'hui je vous parle du hashtag balance ton porc bien sûr et des cercles de femmes dans lesquels la parole se libère.
Ça, c'est évident que ça n'allait pas vous échapper. N'hésitez pas à nous suivre sur europe1.fr en direct ou encore en podcast ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag LVDS ou sur Facebook. La vie devant soi du lundi, c'est parti.
La vie devant soi sur Europe 1.
À la une aujourd'hui et dans le cadre d'Octobre Rose, on parle des cancers d'origine héréditaire. À peu près 10% des cancers sont d'origine héréditaire. En cause, une mutation génétique qui concerne 80 gènes et qui expliquerait pourquoi dans certaines familles, le cancer frappe plus qu'ailleurs et plus jeune. Tout le monde se souvient de l'actrice américaine Angelina Jolie qui a décidé de se faire opérer d'une double mastectomie quand elle a su qu'elle était également porteuse, comme sa maman, d'une mutation génétique. Alors on en parle aujourd'hui avec Laetitia Mendes, présidente de Génétique Cancer, la première et unique association dédiée à la lutte contre les cancers génétiques. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Alors votre histoire ressemble à celle d'Angelina Jolie puisque après le décès de votre maman, vous avez fait un test génétique et vous avez découvert que vous étiez porteuse vous aussi d'une mutation. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à avoir recours à cette intervention ?
C'est au cours en fait de la maladie de ma maman qu'on a su qu'elle était elle-même porteuse de cette mutation et que c'est pour ça qu'elle avait fait son cancer du sein si jeune, que j'ai su qu'il était possible de savoir pour nous. Et l'oncologue, en fait, l'a proposé à ma mère en lui demandant si moi je voulais savoir, en fait, alors que je n'étais pas malade. Et j'ai entamé cette démarche de façon vraiment préventive pour laisser mûrir après l'idée de cette chirurgie pour ne pas avoir à risquer ma vie.
Comment ont réagi vos proches, comment ont réagi votre famille et les médecins qui vous entouraient? Est-ce que vous avez senti que vous étiez accompagnée dans votre démarche?
Au départ, ça a été un peu compliqué, même s'il y avait cette possibilité de rencontrer l'oncogénéticien et de savoir. J'ai senti qu'en tout cas, la suite logique, ce n'était pas forcément de toucher à ces tissus sains et de les enlever. On transmet un risque et pas une maladie. Et ça, tout le monde me le faisait comprendre. Simplement, moi, j'avais une urgence de vie parce que c'est vrai qu'après le décès de ma mère, j'ai compris qu'on pouvait encore mourir très jeune de ses cancers. Elle avait à peine 50 ans. Et moi, je m'apprêtais à devenir maman et je ne voulais pas qu'il en soit de même pour ma fille. Cette impuissance que j'ai ressentie pendant ces traitements et de la voir souffrir autant, je voulais pas que ça m'arrive. Donc, ça a été compliqué, mais j'ai essayé de leur faire entendre raison et d'appuyer en tout cas ce choix irréversible.
Comment vous vous êtes sentie après l'opération? Parce qu'en fait, il y a eu deux étapes. La première étape, vous passez les tests et vous apprenez que vous aussi, vous êtes porteuse donc de ce risque. Et après, combien de temps ça vous a pris en fait d'enclencher la phase opération?
Pour moi, c'était ma survie et ma vie a complètement changé à partir du moment où j'ai enfin pu être en paix et où j'ai enfin pu me dire voilà, je vais vivre vieille. J'avais l'impression que j'allais plus être fauchée et que j'allais pouvoir accomplir aussi tous mes projets de vie et notamment celui-ci, et c'est pour ça que je suis en train de vous en parler aujourd'hui. Donc c'était très important pour moi de pouvoir mettre à profit ces années de vie dans un combat d'espoir et dans un combat de prévention en fait.
Vous vous battez pour quoi? Pour que ces tests soient plus accessibles?
Oui, entre autres, mais surtout, je pense, pour que le grand public soit informé, ne serait-ce que déjà de l'existence et du lien entre l'hérédité et les cancers, et que les familles où il y a des répétitions comprennent que c'est pas juste une malédiction, que parfois il y a vraiment un lien de cause à effet, se renseignent, posent des questions, que les médecins soient aussi plus à l'aise avec ce sujet, qu'on puisse nous éditer des supports d'information, des brochures, comme on vient de démarrer cette collection, sur justement l'intérêt de faire ce test, et puis pour pouvoir aider aussi ceux qui apprennent et qui sont porteurs de ces mutations et qui se doivent aussi d'informer les membres de leur famille. C'est vraiment pas une démarche facile, et en tout cas nous on a envie de la simplifier et on a envie de la rendre accessible. Voilà, on n'en parlait pas du tout aujourd'hui de plus en plus, et c'est aussi grâce à Angelina et à son message, et je pense qu'en France on a encore beaucoup à faire, et en tout cas nous c'est vraiment notre cœur de mission au sein de la grande famille génétique cancer, qu'on puisse voilà, libérer la parole, donner aussi la parole à toutes ces personnes et toutes ces familles qui ont besoin de témoigner et de dire que on peut avoir une très jolie vie après. Moi, c'est celle que je suis en train de vivre et elle est pleine de jolis moments. Voilà, donc c'est important de comprendre que c'est pas un fléau.
Merci pour toutes ces précisions. Alors, si vous nous écoutez et que vous avez envie d'en savoir plus, allez sur le site de l'association qui est remarquablement bien fait, Génétique Cancer tout attaché. Laetitia Mendes, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente. Et merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur l'antenne. Et dans un instant, nous allons recevoir Philippe Ménard, victime d'un AVC en 2014, qui a débuté un Tour de France pour parler de santé et de prévention. Et il fait étape à Paris aujourd'hui pendant ce Tour de France à vélo. Il reprendra sa route dès ce soir.
La vie devant soi sur Europe 1. Soi. Isabelle Quenin et le docteur Gérald Kierzek prennent soin de vous sur Europe 1.
Et dans un instant, nous parlerons des suites des AVC. Les progrès de la médecine et la réactivité des secours font que les suites sont moins lourdes qu'avant. Un exemple avec notre invité, Philippe Ménard, qui nous racontera son parcours juste après le répondeur santé du docteur Kierzek. C'est l'heure 39-21, vos questions et ses réponses.
Bonjour Isabelle, bonjour docteur. Sébastien de Dresde en Allemagne. J'appelle au sujet de l'apnée du sommeil. En fait, pour mon beau-père de 74 ans, qui utilise un appareil respiratoire depuis plus de 10 ans maintenant, qui fait du bruit. En fait, il perd ses cheveux sur les deux côtés de la tête et je pense que c'est dû à l'élastique qu'il porte. Et je voudrais savoir si la technique a changé depuis ces dernières années, quels sont les progrès et est-ce qu'il y a d'autres techniques pour éviter ces désagréments. Merci.
Gérald,
alors,
je pense que ça a progressé quand même.
Oui, ça a progressé depuis 10 ans. C'est peut-être le moment de le changer cet appareil. Surtout qu'il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup de miniaturisation, beaucoup d'appareils qui sont à la fois moins gros et moins bruyants. Parce que c'est vrai que ça pousse, l'objectif c'est de pousser de l'air, hein, l'objectif de ces appareils-là qu'on appelle des CPAP, c'est d'aller ouvrir les voies aériennes. L'apnée du sommeil, on a les voies aériennes qui se ferment, c'est signe de ronflement, ça va donner des bruits un peu bizarres parce que les voies aériennes sont un peu rétrécies. Et là, l'appareil va pousser de l'air justement pour les maintenir ouvertes. Alors, il n'y a pas que les appareils. Et déjà, pour Sébastien et son beau-père, c'est capital de prendre en charge cette apnée du sommeil parce qu'on sait que c'est un facteur de risque de crise cardiaque, d'hypertension artérielle. Et l'hygiène de vie, la perte de poids notamment, c'est vraiment la première étape. Ça, une fois que c'est fait, il y a la deuxième étape si ça continue avec des apnées, et il faut les enregistrer ces apnées, il faut déterminer le nombre d'apnées du sommeil qu'il y a par heure, et s'il y a besoin toujours d'un appareil, parce que 10 ans après peut-être qu'avec des conseils d'hygiène de vie, il n'a plus besoin d'appareil, mais s'il a toujours besoin d'un appareil, il y a des appareils plus petits et qui vont être adaptés. Parfois l'appareil va bien mais c'est le masque qui va mal, donc il faut qu'il y ait le masque et l'appareil qui soient vraiment adaptés à la personne. Et ce masque, quand il dit qu'il perd ses cheveux, je comprends, parce que c'est une espèce d'élastique d'araignée qui vous prend derrière la tête et vous accrochez devant le masque, et c'est vrai que ça peut avec le frottement faire une perte de cheveux. Donc là aussi le masque est important, il doit être appliqué sur le nez notamment, de façon à ce que ça ne fasse pas mal et que ça soit bien étanche. Donc je vous conseille vraiment de refaire le point sur cette apnée du sommeil. Et puis il existe des petits dispositifs qu'on trouve, alors je ne sais pas en Allemagne si on les trouve, mais en France on les trouve, ils s'appellent des nastents, ce sont des petits tuyaux qui se mettent dans le nez qui permettent de maintenir les voies aériennes ouvertes, et de ça pousse pas de l'air mais ça permet de maintenir le tuyau ouvert tout simplement.
39-21, ce n'est pas une question, c'est une réaction de Sylvain de la semaine dernière.
Bonjour docteur, c'est Sylvain. Je viens entendre votre réponse et je suis franchement ravi et ça me touche beaucoup. je vais pouvoir prévenir ma petite femme tout de suite et puis voilà, la rassurer. Je voulais répondre à Isabelle Quenin parce que j'étais assez ému. Oui, en effet, en fait, je mesure 1m86 pour 104 kilos, donc oui, je suis un plutôt gros nounours. Je vous remercie d'avoir dit ça, ça m'a vraiment touché. Je vous remercie à tous. Allez, bisous, au revoir.
C'est normal, Sylvain, j'ai le même à la maison. Souvenez-vous, Gérald, Sylvain nous avait appelé parce que son épouse doit se faire opérer en ambulatoire. Elle rentre le matin, elle ressort l'après-midi, enfin le soir même. Et c'est vrai que Sylvain était un peu inquiet en disant « Mais est-ce qu'elle va être bien, est-ce qu'on va bien la traiter aussi bien que si elle était restée en hospitalisation ?»
Oui, et je lui ai répondu que c'était plutôt une bonne nouvelle d'être pris en charge en ambulatoire parce que ça voulait dire que toutes les contre-indications, que le geste opératoire, tout était réuni pour que les conditions soient elle rentre le matin, elle est opérée, elle reparte le soir. Et on avait conseillé à Sylvain de prendre éventuellement sa journée le lendemain pour pouvoir s'en occuper. Et je voudrais rebondir parce qu'on s'est occupé de sa petite femme, on va s'occuper maintenant de Sylvain. 1m86, un peu plus de 100 kilos. Ça, il y a peut-être un petit surpoids. Donc Sylvain, la deuxième étape...
C'est un petit surpoids, c'est pas énorme.
C'est un gros nounours comme vous l'aviez dit. Mais justement, il faut, après la chirurgie ambulatoire, après l'intervention de votre épouse, c'est peut-être de se remettre un peu à une activité physique et puis faire attention au régime alimentaire. Non pas pour faire un régime, mais pour rééduquer son alimentation. L'idée, c'est de perdre un poids, d'avoir un poids de forme. On rappelle qu'on peut calculer l'IMC, le fameux indice de masse corporelle. On fait le poids sur la taille au carré. Et si on est entre 20 et 25, on est bien. Si on est entre 25 et 30, et ça c'est le cas de Sylvain, on est un peu en surpoids. Alors c'est le moment de manger et c'est le moment de bouger, de manger mieux, de manger moins et de bouger plus.
Les gros nounours, on les aime et on les surveille. La dernière question du répondeur.
Bonjour docteur, Alice de Rennes. J'ai suivi une intervention pour une calcification de l'épaule en ambulatoire. Je suis rentrée chez moi avec donc l'épaule immobilisée et handicapée un petit peu. Mais il faut, il me semble-t-il, 48 heures d'hospitalisation pour avoir le droit à une aide à domicile pour le ménage, etc. Il faudrait revoir les contrats avec les mutuelles, entre autres. Bonne journée et merci pour votre émission. Au revoir.
Gérald.
Alors elle a raison, Alice, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ambulatoire, le fameux virage ambulatoire. On ferme des lits, vous rentrez à la clinique ou à l'hôpital, vous ressortez le jour même, etc. Donc ça, c'est merveilleux quand on peut ressortir le jour même et quand à la maison, il y a quelqu'un qui peut s'occuper de vous. Quand en plus, vous avez la chance d'avoir un infirmier ou une infirmière libérale ou un médecin traitant qui prend le relais, c'est formidable. Sauf que très souvent, on met un peu, si je voulais être un peu trivial, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on ferme un peu les lits et puis on dit aux gens, vous êtes opéré en ambulatoire et hop, coup de pied aux fesses, vous ressortez chez vous, que ça soit prévu ou pas prévu. Donc cette charrue avant les bœufs, ça serait bien d'arrêter un petit peu de fermer des lits, de faire de l'ambulatoire quand c'est possible, d'avoir des mutuelles qui effectivement s'adaptent et leur laisser le temps de s'adapter en termes de contrat de prise en charge, et puis laisser le réseau ambulatoire, les collègues infirmiers, aides-soignants, médecins libéraux, pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir prendre en charge cette sortie de l'ambulatoire, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Les gens sortent un peu, se retrouvent à la maison, alors c'est géré comme ils peuvent. S'ils ont la chance d'avoir de l'entourage, de la famille, c'est la famille qui va prendre en charge ce qui était fait à l'hôpital ou à la clinique, ça c'est pas tout à fait normal parce qu'en fonction de on a les moyens ou on n'a pas les moyens, on est entouré ou on n'est pas entouré, ça peut parfois poser des problèmes. Donc l'ambulatoire c'est bien, mais tout ne pourra pas se faire en ambulatoire dans les années qui viennent, surtout avec une population qui est vieillissante. Alors là c'était une épaule pour notre auditrice Alice, mais parfois c'est des personnes un peu plus âgées avec un peu plus de complications et ces gens-là ils peuvent pas rentrer à la maison.
Et c'est peut-être une bonne question à poser à sa mutuelle lorsque vous renégociez votre contrat pour l'année prochaine, et voir si effectivement ce mécanisme qui entoure l'ambulatoire est bien pris en charge et dans quelles conditions. Vos questions tous les jours sur le répondeur santé, vous appelez le 3921 50 centimes d'euros la minute. Et puis bien sûr dans les émissions qui suivent, le docteur Kerzek vous répond dans un instant. On va parler avec Philippe Ménard qui a choisi de faire de sa vie un combat pour la prévention et l'information des risques d'AVC. C'est juste après Supertramp.
La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
Et avec nous en studio, Philippe Ménard, vous avez été victime d'un AVC en 2014. Vous avez créé l'association AVC Tous Concernés. Votre but, informer pour prévenir, informer pour guérir. On est toujours avec le docteur Gérald Kerzek. Alors, je disais, Philippe Ménard, que vous faites étape à Europe 1 aujourd'hui parce que depuis un mois, vous sillonnez les routes de France sur une sorte de vélo tricycle avec deux autres copains. Ça tombe bien, ils sont avec nous et ils font coucou depuis la régie. C'est quoi l'idée de ce Tour de France pas comme les autres?
L'idée, c'est que donc j'ai été victime d'un AVC en février 2014 qui a été compliqué entre le coma, l'hospitalisation, de très longs mois de rééducation pendant lesquels j'ai été confronté à à la douleur d'un AVC, au séisme que ça peut être sur le plan physique, sur le plan de l'acceptation. J'ai vu beaucoup de larmes aussi, j'ai vu des vies brisées et je me suis dit, à la sollicitation des hôpitaux de Bordeaux, j'ai répondu favorablement pour les aider dans la prévention, pour faire en sorte que ce à quoi j'ai été confronté, eh bien, je puisse apporter ma pierre à l'édifice pour éviter le plus possible que des gens aient à vivre ça.
Avant 2014, votre vie, elle était comment? Vous faisiez quoi? Faisons plus amplement connaissance.
J'étais maire d'un petit village qui s'appelle Barsac, au sud de Bordeaux. J'étais conseiller régional, j'étais président d'une intercommunalité. J'avais des journées de 19h, 7 jours sur 7, avec tous les facteur de risque d'un accident vasculaire cérébral, donc la malbouffe qui entraîne le surpoids, l'hyperactivité, la sédentarité, l'hypertension artérielle, donc un cocktail explosif qui ne pouvait que mal finir, soit par une crise cardiaque, soit par un AVC dont je ne connaissais que le terme puisque je pensais que c'était plutôt destiné aux personnes âgées.
Est-ce que cet AVC, vous l'avez vu venir? Parce que maintenant, votre analyse, elle est très pertinente. Vous dites, je bouffais un sandwich dans ma voiture, je courais 18-19 heures par jour, je cavalais tout le temps entre deux postes à responsabilité. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir quand même eu des signes annonciateurs qui vous ont fait dire, tiens, là, peut-être que je suis pas très en forme?
Oui, quelques mois avant, je sentais que j'allais dans le mur en klaxonnant et à très forte vitesse. J'avais pris la décision d'alléger mon emploi du temps. J'avais réuni les maires de mon canton pour leur dire que l'intercommunalité s'était terminée. J'ai surtout vu le basculement qui a été lorsque j'ai senti que ça n'allait pas, que j'étais épuisé, fatigué, moralement, physiquement, mais que même des vacances n'arrivaient absolument pas à combler cette situation.
Gérald Kierzek, un AVC, c'est quoi? Est-ce qu'il y a plusieurs formes et est-ce qu'il y a plusieurs degrés dans l'intensité?
Alors oui, il y a plusieurs AVC. Il y a déjà des AVC hémorragiques. C'est pas le cas de Philippe. L'AVC hémorragique, c'est la rupture d'anévrisme. C'est un petit anévrisme qui va péter dans le cerveau et ça fait une hémorragie. C'est 20% des cas. Et puis, dans 80% des cas, et ça, c'était le cas de Philippe, c'est l'AVC ischémique. C'est-à-dire que c'est une artère du cerveau qui va se boucher. Et elle se bouge. Pourquoi? Bah, parce qu'elle se bouge parce que, il y a du cholestérol. Elle se bouge parce qu'on a fumé. Et tout ça va faire que le tuyau qui est l'artère avec du sang qui va circuler, qui va irriguer, apporter du sang et de l'oxygène au cerveau, ça se bouche au bout d'un moment. Et ça se bouge soit progressivement, soit ça se bouge par petits caillots qui vont aller emboliser dans le cerveau, et c'est ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire. Donc quand on a une alerte, un AVC, un petit accident ischémique, par exemple vous êtes en train le matin de vous raser et puis clac, vous lâchez votre rasoir et puis ça revient, ou alors vous avez un flou visuel ou un œil qui voit noir et puis d'un coup ça revient, ça c'est peut-être un petit AVC. C'est pas ce que Philippe a eu, c'est-à-dire quand il se sentait les mois précédents un peu fatigué, sont pas des signes annonciateurs d'un AVC. En revanche, c'est des signes, peut-être que son corps sentait déjà qu'il y avait quelque chose, un surmenage, mais en tout cas, c'est pas dans les signes annonciateurs de l'AVC. Et puis l'AVC, il peut être constitué, c'est-à-dire que l'artère, quand elle est vraiment bouchée par le cholestérol, par le tabac, par plein de choses, quand il y a une plaque et il y a un caillot vraiment qui va venir bloquer complètement cette artère et que ça dure plus de 24 heures, c'est ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral constitué, et c'est là où on a les symptômes.
Il paraît qu'en France, il y a, et le chiffre fait peur, un AVC toutes les 4 minutes. Alors dans un instant, on va retrouver Philippe Ménard et son histoire, et puis ses messages qu'il porte à travers les villes et les villages, comme ça, 5 à 6 heures sur son vélo, puis la caravane s'installe et attend bien sûr tous ceux qui veulent se renseigner et tous ceux qui souhaitent aider pour éviter d'être un jour eux aussi victimes d'un AVC. A tout de suite.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
En studio avec nous, Philippe Ménard, qui parcourt la France à vélo, suivi d'une caravane qu'il installe dans les villes et puis dans les villages pour répondre à toutes les questions que l'on se pose sur les AVC et ses conséquences. Philippe Ménard, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent?
Les questions, d'abord il y a un moment un peu d'hésitation, et puis on parle de ce que sont les facteurs de risque, et les gens se positionnent par rapport à ces facteurs de risque. Est-ce que j'ai une hypertension artérielle? Ça tombe bien puisqu'on propose des prises de tension sur notre stand, on a des tensiomètres. Et puis, est-ce que je mange bien? Est-ce que je bouge assez? C'est plutôt ça. Est-ce que je vis une vie saine, sans stress, sans conflit? Ça, c'est un peu raté. Mais c'est plutôt des questions sur la qualité de leur propre vie.
Alors, puisqu'on a la chance d'avoir notre toubib avec nous en studio, on va revenir un petit peu, docteur Kierziak, sur tous les signaux d'alerte.
Alors, c'est pas tellement des signaux d'alerte, c'est vraiment des symptômes de l'AVC. C'est-à-dire qu'il y a rien un peu de précurseur, si ce n'est quand on est déjà au stade soit d'accident ischémique, et je disais tout à l'heure, une main qui marche pas bien, une espèce de paresthésie, de picotement dans une main, un œil qui, d'un coup, vous ne voyez plus, ou une amputation du champ visuel, ou une paralysie faciale. Tout ça, ce sont des signes neurologiques, ça veut pas dire que c'est un AVC, mais en tout cas, si c'en est un, il faut que la course contre la montre s'engage, c'est-à-dire qu'il vaut mieux appeler le 15, et encore une fois, c'est pas le médecin traitant qu'il faut appeler. C'est pas se rendre aux urgences qu'il faut faire. Il faut appeler le 15. Et au 15, on va vous poser un certain nombre de questions et on va vous orienter le plus vite possible pour confirmer ou infirmer si c'est un AVC. Et même si c'est très fugace, c'est-à-dire que l'idée de je me peigne ou je me rase et boum, j'ai le peigne ou le rasoir qui tombe, ça peut durer quelques minutes et ça revient ad integrum, comme on dit. Mais c'est déjà un syndrome de menace. C'est déjà plus qu'une alerte. C'est déjà un premier signe d'accident ischémique et il faut surtout pas le négliger. Et puis, bien sûr, si ces symptômes, ils persistent, si ces symptômes, en plus, ils s'aggravent, c'est-à-dire que vous avez du mal à parler, ce qu'on appelle la dysphasie ou une aphasie, la personne cherche ces mots, n'arrive pas, vous voyez, il y a une différence de débit, ça peut être aussi un signe d'AVC. Pareil, un seul réflexe, c'est le 15 pour aller confirmer ou au contraire infirmer cet accident vasculaire cérébral. C'est pas forcément des maux de tête, souvent on pense accident vasculaire cérébraux, il y a grosse des maux de tête, grosse migraine, c'est pas du tout ça, ça peut être le cas, mais on peut très bien faire un AVC sans avoir des migraines, c'est pas forcément une paralysie de tous les corps, vous savez, l'hémiplégie, c'est pas forcément ça non plus, ça peut être des petits signes qui sont discrets, tout dépend quelle artère est en train de se boucher. Si c'est une petite artère de la rétine, par exemple, c'est juste un trouble visuel. Si c'est une plus grosse artère au niveau du cerveau, on imagine bien qu'il va y avoir la paralysie faciale, la bouche qui part un peu de côté, les mots qui vont avoir du mal à sortir. Mais tout ça, dès qu'il y a ces symptômes un peu bizarres, ces symptômes, même si c'est fugace, on appelle le 15.
Surtout quand on a un terrain, on parlait d'hypertension, donc à mon avis, le surpoids aussi doit être un facteur. L'hygiène de vie, donc là vous allez nous dire encore on ne fume pas. Alors, consommation d'alcool limitée.
Autant sur l'accident hémorragique, la rupture d'un anévrisme, c'est imparable parce que on a un anévrisme, on n'a pas un anévrisme et puis il va s'exprimer, il va pas s'exprimer malheureusement. Autant sur l'accident vasculaire. Ischémique, c'est une maladie cardiovasculaire. C'est la même chose que l'infarctus. L'infarctus, les gens connaissent bien le tabac, etc. Sur l'AVC, ce sont les mêmes facteurs de risque. Et c'est ça la bonne nouvelle. Cette hygiène de vie, elle va non seulement nous protéger de la crise cardiaque, mais en plus de l'attaque cérébrale. Et ça, c'est quand même super parce que c'est quoi l'hygiène de vie? C'est bouger plus. Ça, on le dit souvent dans cette émission, mais le fait de bouger et donc d'avoir un poids qui va être un poids de forme ou qui va se normaliser, c'est un facteur de risque essentiel qu'on va pouvoir éliminer. Deuxième facteur de risque, on mange moins de graisse. Donc on va éviter le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'AVC aussi.
Pas de sel. Ou on essaye de limiter le sel.
Alors, on limite le sel parce que le troisième facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Et Philippe, qui avait une quarantaine d'années quand il a eu cet AVC, quand il nous parle de stress, de vie trépidante, de politique politicienne, etc., il y avait probablement aussi une hypertension artérielle qu'il avait complètement négligée parce que l'hypertension artérielle, si on ne va pas chez son toubib faire la prise de sang ou à la pharmacie ou avec le petit autotensiomètre, on ne s'aperçoit pas qu'on a de l'hypertension artérielle. On vit à 100 à l'heure, stressé ou pas stressé, mais en tout cas, on a cette hypertension artérielle. Et ça abîme les artères, et ça abîme les artères au niveau cérébral. Et malheureusement, c'est au stade de complication qu'on le dépiste. Donc là aussi, dans les bonnes pratiques, c'est se faire dépister régulièrement cette hypertension artérielle et éviter de rajouter du sel parce qu'on sait que ça augmente la pression.
Alors la rapidité d'intervention est essentielle pour les secours. On dit toujours que tout va se jouer dans les 4 heures qui suivent un AVC. Comment ça s'est passé pour vous, Philippe Ménard-Gérald vient de le dire, en 2014, vous avez 43 ans. Vous étiez chez vous, vous étiez dans votre bureau, comment ça s'est passé?
J'étais chez moi, j'avais quitté la mairie très tard, vers 21h. Je suis allé, j'ai mangé rapidement en train de répondre à mes mails. Je me suis couché comme d'habitude à 1h du matin. Et puis je me suis réveillé à 2-3 heures du matin avec une envie très forte de vomir. J'ai essayé d'aller aux toilettes et là je me suis rendu compte que je ne tenais pas du tout debout, donc j'ai rampé. Jusqu'aux toilettes pour vomir. Je suis revenu à mon lit et j'ai fait le geste qui m'a sauvé. J'ai appelé le 15 de façon à être secouru à la maison par les pompiers et d'activer la chaîne des secours parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une urgence absolue. Il y a 2 millions de neurones qui sont détruites par minute. Donc si on n'est pas pris immédiatement en charge, on accumule une destruction de neurones qui vont amoindrir les risques de survie et de rééducation positive après.
Les secours sont arrivés très rapidement. On vous emmenait à l'hôpital tout de suite, où il y a une partie où on vous...
Non, on m'a, j'ai perdu connaissance tout de suite. On m'a transporté à l'hôpital de Langon, à côté de la maison. On m'a fait une ponction lombaire. Là, on m'a emmené au CHU et je me suis réveillé 15 jours après.
Donc vous êtes tombé dans, comme on dit, tombé dans le coma. Vous êtes resté dans le coma 9 jours. Mmh. Gérald, est-ce que c'est quelque chose qui est assez fréquent à la suite d'un AVC, cette perte de conscience qui va jusqu'au coma ?
Ça signe quand même la gravité de l'AVC, c'est-à-dire qu'il y avait un accident vasculaire cérébral suffisamment étendu pour abolir les fonctions neurologiques, nécessiter de la réanimation. Après, heureusement, la récupération, on le voit, rien n'est joué parce que le temps de récupération, les techniques mises en œuvre, et là, le mot-clé, c'est vraiment la chaîne des secours qu'il faut déclencher extrêmement rapidement, parce que l'appel au 15, ça permet de gagner du temps. Non pas que les médecins traitants ne sachent pas faire, non pas que nous, aux urgences, on ne sache pas faire, mais il y a une filière qu'on appelle les stroke centers, qui sont des centres de prise en charge de l'AVC, qui permet d'amener le patient du domicile le plus vite possible à un endroit où on peut faire le diagnostic. Et le plus vite possible où on peut faire le diagnostic, où il y a une équipe autour. Il y a le radiologue qui va faire l'IRM, parce que parfois le scanner ne suffit pas. Donc on fait l'IRM, on va regarder au plus près de l'artère qui est en train de se boucher. Une fois que le diagnostic est confirmé, il y a les neurologues qu'on appelle des neurologues vasculaires qui sont là et qui vont pouvoir aller déboucher cette artère-là. Vous voyez, tout ça se fait dans une prise en charge, qui est une prise en charge ultra spécialisée. Et bien sûr, si la personne a perdu connaissance, ce sont des soins de réanimation. Mais si on ne traite pas la cause, ça ne sert à rien de traiter le symptôme. Et la cause, c'est vraiment cette artère qui se bouche.
Vous êtes dans le coma, vous y restez 9 jours, vous vous réveillez, vous êtes pris là, effectivement, encore en charge par l'équipe médicale et par des neurologues qui vous disent « Mon pauvre, vous ne ferez plus jamais de vélo. » Et qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Un tour de France en vélo, ça veut dire que vous avez une volonté en béton et qu'on en parle dans quelques instants.
La vie devant soi sur Europe 1.
Et cet après-midi, en studio avec le docteur Gérald Kierzek, nous accueillons Philippe Ménard. Alors Philippe Ménard, on l'a dit, février 2014, vous avez un AVC, vous vous réveillez. Il y a plus... Alors vous qui étiez rugbyman, grand sportif, bah vous vous réveillez, les muscles, ils ont fondu. Donc là, va recommencer vraiment une reconstruction. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'un an après cet AVC, vous décidez de parcourir, de faire le chemin de Compostelle. Mm-hmm. Et donc je vous ai demandé hors antenne, qu'est-ce que vous aviez fait comme étape? Et là, vous me dites, toutes 1143 kilomètres.
Oui.
Alors, un an après un AVC, on marche 1143 kilomètres. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'est une épreuve quand même.
D'abord, je n'ai pas marché 1143 kilomètres. J'ai marché 25 kilomètres par jour. Et dans ces 25 kilomètres, j'ai marché 5 heures. Donc ça apprend le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'organisation de la vie, l'instant présent, vivre pleinement ce que l'on vit. Et puis, des instants présents à la suite d'instants présents, des heures à la suite d'heures, des jours à la suite des jours, ça fait 1143 kilomètres. Donc c'est un chemin de vie, d'introspection. J'avais très bien compris que ma vie était terminée et que j'avais... un cœur qui battait et des membres qui fonctionnaient et que le dernier étage de la fusée, même s'il était altéré, fonctionnait. Donc j'avais une feuille blanche et de cette feuille blanche, je devais créer une vie et qui a commencé par ce chemin avec une chose qui me fait sourire, c'est que au retour dans mon village, parce que je voulais finir ma vie dans mon village et renaître dans la gare de mon village, ma nouvelle vie commençait à cet endroit. Et mon neurologue a dit, on était persuadé que tu n'y arriverais pas. Donc on avait organisé le fait qu'il fallait te récupérer, oui. On allait faire du service après-vente en chemin. Moi, je savais que j'allais y arriver.
Surtout qu'ils ont dit pendant que, quand vous sortez de votre coma, les médecins réunissent votre famille et disent à vos parents, vu ce qu'il a eu, il ne marchera jamais, il ne marchera plus.
Bah, disons qu'à ce moment-là, on était plutôt, écoutez, on lui a sauvé la vie, mais tout ça va avoir des conséquences et de toute façon, il y a de très 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 fortes chances qu'il ne remarchera plus. Ce à quoi j'ai dit, eh ben, c'est ce qu'on va voir. Votre fauteuil roulant, votre déambulateur, votre canne, tout ça, ça fera 1143 kilomètres.
Il faut toujours écouter les docteurs, mais il faut toujours s'écouter soi aussi. Et ça, c'est important parce que, évidemment, c'est surtout sur les accidents vasculaires cérébraux, on peut jamais prédire les choses. Et ce qui est un vrai à un instant T en fonction de ce qu'on voit, l'imagerie, l'AVC, etc., n'est pas vrai à l'instant T plus 1. Et puis, il y a une énergie vitale, il y a une force de vie, ça, qui est de toute façon une force motrice, hein, au vrai sens du terme. Donc, que c'est jamais une sanction. Alors même si je sais bien, parfois ça tombe un peu comme un verdict ce qu'on dit, et à nous aussi, docteurs et professionnels de santé, de faire attention à ce qu'on dit, parce que dans l'urgence, les mots ont un vrai poids et sont interprétés. Et il ne faut pas que ça ferme des portes, mais au contraire, il faut toujours qu'on laisse un peu des portes ouvertes.
Alors pour vous, visiblement, Philippe Ménard, ce discours a été un vrai défi, puisque vous avez dit, je vais leur montrer, et ça a commencé par Compostelle. Vous rentrez de Compostelle et vous dites, non seulement j'ai marché, mais en plus, je vais faire du vélo. Et là, on vous dit, deuxième coup, non, ça c'est pas possible, non. Vous ferez jamais de vélo.
Mon neurologue m'a dit, face à ma fougue et un peu ma folie, une désinhibition dont je suis toujours atteint, m'a dit, écoute Philippe, ton truc de marche, on t'a laissé faire, t'es allé jusqu'au bout, mais par contre, ton truc de vélo, c'est non. Voilà. C'est juste pas possible, on t'a fait une ablation d'une partie du cervelet, donc tu vas avoir des troubles d'équilibre, il n'est pas question qu'on te laisse partir là-dessus, fais du tricycle si t'as envie.
Et vous l'avez dit comment ? Comme une boutade ou
Non, mais on a des relations qui sont relativement privilégiées. Donc il m'a dit les choses cash, il fallait me les dire cash. Donc il y a une solution, plutôt que de quitter ma marche et d'aller dans mon canapé m'asseoir, la solution c'était le tricycle. Donc va pour le tricycle, il fallait que j'en trouve un, parce que pour moi un tricycle c'était destiné aux personnes âgées, un type de 45 ans sur un tricycle, c'était absolument inimaginable. Donc il fallait que ce soit un tricycle beau, avec un design particulier. Enfin, il fallait me convaincre, mais il me fallait un tricycle de jeunes.
Alors ça, c'est pour la partie physique. Parallèlement, il y a une autre scène, moi, qui m'a beaucoup frappée. Vous allez voter, et vous vous retrouvez le jour du vote avec un stylo, et vous ne savez plus écrire. Vous n'arrivez plus à écrire.
Je pensais pas que vous alliez me parler de ça. Oui, effectivement, je suis allé voter. J'ai quitté le centre de rééducation. Je leur ai fait des pieds et des mains pour qu'ils ne voulaient pas. Et je leur ai dit, vous croyez quand même pas que je vais rester dans votre chambre alors qu'on vote chez moi. Donc je veux aller voter. Donc on s'est entendu sur le fait qu'il fallait que je reste 15 minutes au bureau de vote. Et lorsque j'ai voté, on m'a tendu un stylo pour signer. Et j'ai regardé ce truc. Et en fait, je me suis rendu compte que non seulement je ne savais pas ce que c'était, deux, je ne savais pas ce qu'il fallait que j'en fasse. Et lorsque j'ai regardé à l'autre bureau de vote ce qu'ils en faisaient, je ne pouvais pas écrire. Donc c'est un cataclysme. Et j'ai beaucoup parlé. C'est-à-dire que l'équipe de thérapeutes qui m'entourait, je leur ai dit, je ne peux plus écrire. Voilà.
Tout en étant conscient que tu n'y arrivais pas.
Tout en étant conscient, et du coup, tout de suite, ils m'ont mis entre les mains d'un ergothérapeute qui m'a réappris à écrire. Donc, c'était le, la, pi, les grandes lettres, comme à l'école maternelle quand on apprend à écrire. Et ça a duré 4-5 mois, et donc j'ai réappris à écrire.
Dans un instant, on retrouve Philippe Ménard. On va parler donc des moyens qui sont à la disposition des médecins lorsque l'AVC comme le vôtre est pris dans les 4 heures qui suivent. C'est-à-dire quand on arrive suffisamment tôt, on peut imaginer un jour faire comme vous, Compostelle, et puis du tricycle ou du vélo tout autour de la France. Le fils unique, c'était Francis Cabrel. On retrouve en studio Philippe Ménard avec le docteur Gérald Kierzek. Alors cet AVC en 2014, en 2015, vous attaquez Compostelle. Est-ce qu'on peut dire qu'au début, d'ailleurs, vous n'étiez même pas censé marcher? On vous avait dit, avec un déambulateur, vous dites jamais de la vie, j'irai faire Compostelle avec un déambulateur.
J'ai même dit à mon neurologue, mais c'est super votre déambulateur, parce qu'en fait, je vais pouvoir aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle avec, j'aurai même pas besoin de prendre sur mes épaules le sac à dos, je peux le poser sur le déambulateur. Et il m'a dit, d'accord, on verra, on en reparlera. Et on en a reparlé.
Gérald, quels sont les moyens dont dispose la médecine à l'heure actuelle pour justement limiter les suites d'un AVC? Comme le disait Philippe Ménard, il y a 10 ans, il n'aurait pas eu les mêmes suites. Et il y a 10 ans, peut-être Philippe, vous le disiez vous-même, que vous seriez mort. Maintenant, ça a changé. La fameuse thrombectomie mécanique.
Thrombolyse, thrombectomie. Non, il y a 3 choses qui ont changé. Un, c'est le diagnostic. Et c'est clair que les stroke centers, ces centres où il y a à la fois le radiologue, l'IRM, ont fait rapidement le diagnostic. Ça a énormément gagné, sauvé des vies et évité un certain nombre de handicaps. Deuxièmement, c'est une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est d'aller effectivement déboucher cette artère. Et on la débouche avec la thrombolyse. Alors, vous disiez 4 heures, c'est 4h30 pour certains accidents vasculaires cérébraux. On pousse même jusqu'à 6 heures de délai. Mais ce qui est capital aussi bien sur le diagnostic que sur la possibilité possibilité de thrombolyse, injecter un médicament qui va dissoudre le caillot de sang, c'est le délai. Et ce délai, bah, c'est nous, on sait faire, le SAMU, les neurologues, etc. Mais par contre, si vous, auditeurs, entourage, vous perdez du temps, eh bien malheureusement, c'est ce délai qui a commencé à courir. Donc il faut vraiment, dès les premiers symptômes, appeler très très vite le 15. Et troisième progrès, c'est la thrombectomie, c'est-à-dire qu'on va même plus loin et l'un n'empêche pas l'autre, il y a la thrombolyse, c'est-à-dire que c'est le médicament qui va lyser, qui va détruire le caillot, et derrière, quand il reste ce caillot, les neurologues avec les radiologues vont, à partir juste d'une petite, comme si on vous faisait une prise de sang, on fait monter un petit cathéter, comme pour les artères du cœur finalement, on monte un guide et on va chercher qu'un petit lasso, c'est vraiment ça, c'est un lasso qui va entourer dans le cerveau, il est dans l'artère et il va aller chercher ce caillot pour l'extraire, ce qu'on appelle la thrombectomie, et ça aussi, ça a permis de sauver des vies. Donc bien sûr, la force des patients, etc., et rien n'est jamais perdu, ça c'est important, mais ces trois progrès, ils sont capitaux aussi, et là ils sont dus aux équipes médicales.
Alors vous êtes venu, Philippe Ménard, avec vos deux copains qui sont en régie, et hors antenne, vous m'avez dit, on s'éclate, on vit un truc de folie, on vit une aventure géniale.
Bah oui, enfin... on vit un truc humain très fort et d'abord on donne un sens aussi à notre vie qui a été accidentée. On a fait tous les trois des AVC, on est amoindri, mais on fait de nos accidents une aventure et on vit des choses positives sur le plan humain, sur le plan de l'utilité.
C'est quoi le message pour la conclusion?
Le message, c'est que les AVC, on pourrait les éviter. Ça dépend que de nous, on est acteurs de notre propre santé. Gérald a listé ce qu'étaient les facteurs de risque. On n'est pas plus fort que son corps. On ne décide pas ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour notre esprit. La grande leçon de tout ça, c'est que on croit qu'on est invincible, mais en fait, on n'a qu'une seule vie. Et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une.
Alors, vous allez repartir sur les routes.
C'est le titre d'un bouquin,
c'est
ça, non?
C'est le titre d'un bouquin, un excellent
oui,
bouquin qui a fait un carton.
Ah, oui.
Et vous allez repartir sur les routes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Oui. Si vous voulez savoir où va s'arrêter, où vous pouvez rencontrer Philippe Ménard, vous allez sur le site de l'association AVC Tous Concernés. Merci d'avoir fait étape avec nous cet Merci. Après-midi dans La Vie Devant Soi. Merci. Dans un instant, on va se retrouver avec Anne Cazobon pour une nouvelle édition d'Antidote.
La Vie Devant Soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Anne Cazobon, bonjour.
Namasté.
Alors, votre principale source d'inspiration, Anne, souvent, ce sont les transports en commun. Encore une fois, aujourd'hui, c'est ça. Mais les transports en commun, c'est pas très namasté quand même. Hein. Pourquoi?
C'est la vie, c'est les gens qui nous entourent. 8h05 ce matin, ligne 80, une adorable petite fille blonde, maximum 5 ans, avec son papa en route pour l'école. Une petite fille de la ville, donc, visiblement en pleine découverte du monde animal. Et est-ce qu'on peut croiser des ours dans la rue? Et est-ce qu'il y a des lapins aussi? Et est-ce qu'on peut croiser des loups dans le bus? Oh, tu sais, réponse. Son papa, il n'y a pas beaucoup de loups dans le bus. Beaucoup? Non. Mais il y en a. Elle est très juste, la réponse de ce papa. Et elle est tristement vraie. Dans le bus, mais aussi au bureau, à la fac, à la maison, dans la rue, il n'y a pas beaucoup de loups. Mais il y en a. Des hommes, mal à l'aise avec leur masculin, et qui ont une peur bleue du féminin à tel point qu'il faut qu'il l'écrase, qu'il le bride, qu'il le muselle, qu'il l'abîme dans son expression. Ce week-end, vous n'avez pas pu passer à côté du hashtag « Balance ton porc », où, à l'invitation de la journaliste Sandra Muller, les femmes se sont mises à briser l'omerta et à raconter le harcèlement sexuel, et même les agressions sexuelles dont elles ont été victimes dans leur travail, mais aussi en famille, dans la rue, dans les transports. En voyant défiler ces tweets, tous plus glaçants les uns que les autres, en voyant la parole faire ricochet contre les parois d'un réseau social en forme d'oiseau bleu, en voyant celles qui osaient plaquer et planquer derrière un pseudo dans un tweet choral dire ce qu'on leur avait fait, en voyant certaines passer du « on » au « nous » et d'un coup, là, porté par le phénomène cathartique, assumer enfin le « je », ça m'a fait penser à ce que l'on peut expérimenter lors de stages de développement personnel, notamment dans des groupes de femmes, des cercles de parole, dans lesquels le sentiment de sororité prime, comme si on était entre sœurs pour partager les larmes, les vécus semblables et la même condition féminine. Oui, cette libération collective de la parole sur les écrans ressemble un peu, c'est vrai, à ces rituels de tentes de femmes indiennes, les fameuses tentes rouges dans lesquelles le bâton de parole circule pour y libérer le féminin abîmé, bafoué, humilié par des hommes, des pères, des collègues, des maris, des frères ou des inconnus dont le masculin n'est pas ancré.
Alors vous qui cheminez en développement personnel depuis 15 ans, qu'est-ce que vous observez ?
Que pour celles qui décident de ne pas s'en occuper, pour celles qui glissent cela sous le tapis, ces histoires remontent à la surface, lors d'un stage de voix, lors d'un cours d'expression corporelle, dans une rupture, bref, dans un endroit où rien n'est prévu pour. Oui, ce genre d'agression est une véritable bombe à retardement. Et cela ne fait pas du tout, cela ne fait pas tout de lâcher un tweet à distance derrière un écran, parce que chacune de ces femmes, c'est moi, c'est vous aussi, nous sommes toutes et tous issues de lignées de femmes qui, pour beaucoup d'entre elles, ont souffert dans leur chair, notamment autour de leur sexualité. Alors en voyant autour et autant de souffrances écourtées en 140 caractères, j'ai espéré très fort que ces femmes feraient le pas d'après et iraient déposer tout cela dans le cabinet de quelqu'un dont c'est le métier de recevoir cette souffrance-là. Un thérapeute, qu'elle puisse y déposer le secret d'une mère, trop lourd à porter, la rage de voir un délai de prescription dépassé, des mains courantes restées sans suite, des regards dégueulasses après lesquels aucun savon n'est efficace, l'angoisse de prendre les transports depuis cette main sur la fesse, depuis cette intégrité piétinée, depuis ce type en chasse l'autre soir. Parce que balancer son porc, c'est juste le début du commencement, et qu'un porc, c'est par définition très sale, qu'il va falloir bien plus que le temps d'un tweet pour nettoyer les dégâts.
Merci Anne pour cette version du lundi d'Antidote qui a bien secoué. On se retrouve tous demain pour parler d'un nouveau thème. On parlera de la peau et des effets du temps. Comment ralentir, empêcher, préserver notre beauté et ralentir le vieillissement. À demain.